Session théologie par le Père Philippe à Saint-Jodard, le 26 août 1991.
J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Purification, purgatoire. Votre intelligence va s'illuminer, ne vous inquiétez pas. Parce que ça fait un peu une serre. Voyez-vous, on n'est pas chez soi ici. Ça appartient à l'État, donc. C'est pour ça que c'est si pratique. C'est bien? Vous n'entendez pas, hein? Ah, dites-le-moi, parce que je ne peux pas le savoir.
Ce matin, j'ai très bien entendu.
Ce matin, vous avez très bien entendu. Donc, vous pouvez bien entendre. Ça me soulage. Mais vous êtes ici. Dans un petit séminaire, le premier après le Concile de Trente, bien d'église, qui au début de ce siècle a été pris par l'État et appartient toujours à l'État. Du petit séminaire, c'était transformé en maison de correction. N'était pas du tout fonctionnelle. L'État l'a abandonnée et c'est les mendiants, les moines qui l'ont prise. Alors c'est pour ça que ça chauffe. Quand on est revenu de Suisse, j'ai quitté la Suisse avec 80 Français derrière le dos. On n'avait aucun lieu. On a frappé à des maisons où il y avait de grands bâtiments inutiles qui n'étaient plus utilisés puisque de fait, il n'y avait pas de novices. Il y avait 80 jeunes. On nous a dit, oh, non, on va le vendre aux pompiers. Et là, on a pris ce qu'on nous offrait. La première fois qu'ici, que le Père Philippe-Marie était venu en cherchant, il a dit, oh, jamais on tiendra ici. Et puis, de fait, on a été bien obligés. Je dis ça, c'est pour que vous compreniez, que c'est pas fonctionnel. Alors, je vais répondre rapidement à quelques questions. Pouvez-vous préciser le rôle du magistère, spécialement du pape, dans la recherche de la vérité? Qu'est-ce que la tradition? Nous sommes dans l'ordre surnaturel de foi chrétienne. Vatican I a précisé que le Saint-Père était infaillible en matière de foi. Les dogmes, en matière de morale, qui regarde le point de vue de l'homme, pas en matière politique ni d'art. Alors, ceci repose sur l'affirmation de Jésus, ta foi ne défaillera pas. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Ceci repose sur l'alliance que Jésus fait avec Pierre, fait paître mes brebis, les brebis du Christ. Donc, il y a une alliance particulière entre Jésus et Pierre. Dans l'évangile de Saint Jean, c'est très net, on voit les trois alliances qui est toute la structure de l'Église. L'alliance dans le corps du Christ, l'Eucharistie. L'alliance domestique avec Marie à la croix. L'alliance après la résurrection avec Pierre. Je crois qu'il ne faut jamais oublier ces trois alliances qui sont très différentes. Hein. Faut pas les confondre. Faut pas les amalgamer. Elles ont trois niveaux différents qu'il faut respecter. Si on ne les comprend pas, il faut demander des explications pour essayer de comprendre. Mais ça repose sur un ordre de sagesse divin qui nous est révélé. Je ne peux pas le justifier entièrement avec ma raison philosophique. Donc, le pape unit aux évêques, formant la tradition. Et là, pour bien préciser ce que nous devons croire et ce que nous sommes libres, ce que dans l'ordre pratique nous devons faire, et là où il laisse notre prudence. Alors, il faudrait voir des quantités de corps concrets, puis bien préciser. Mais quand le pape écrit une encyclique, par exemple, vous ne pouvez pas dire que l'encyclique, toute l'encyclique, est infaillible. Non. Mais vous pouvez dire que le pape nous oriente vers quelque chose d'important à préciser. Le pape ne supprime pas le travail des théologiens. Jamais. Il nous demande, à partir d'une encyclique, de préciser et de bien voir les applications. Mais il oriente. Mais sur des points précis que représente la finalité de l'homme, sur lesquels repose toute la morale, là, on peut dire qu'il joue le rôle de pasteur, vicaire du Christ. Comme lorsqu'il précise, lorsque l'Église précise un dogme. Certains théologiens au dernier concile auraient voulu que les trois derniers dogmes, l'Immaculée Conception, l'infaillibilité, l'Assomption, soient considérés comme des mini-dogmes. Ça n'a jamais passé. C'est tombé dans l'oubli. C'était la fantaisie de certains théologiens. Mais le concile ne les a jamais acceptés. Et voyez leur raison. C'est que ces trois derniers dogmes, c'est l'Église qui siège à Rome, l'Église du souverain pontife, qui les a précisés. Donc, n'étaient pas présents les orthodoxes, n'étaient pas présents nos frères séparés, luthériens, calvinistes. Donc, eux disaient que ce n'était qu'une partie de l'Église. Les deux poumons n'étaient pas là. Ce n'était qu'une partie de l'Église. Ceci, c'est une conception théologique de certains théologiens. L'Église n'a jamais accepté ça. L'Église a considéré toujours que ceux qui avaient quitté Rome se mettaient en dehors de la tradition plénière. Et donc, puisqu'ils se mettaient eux-mêmes en dehors de la tradition plénière, l'Église continuait d'avoir à l'égard du Christ le même lien. Elle souffrait de la séparation. On souffre tous de la séparation à l'égard des orthodoxes. On voudrait qu'il puisse y avoir l'intercommunion. On souffre de la séparation à l'égard des luthériens, à l'égard des calvinistes. C'est normal qu'on en souffre. C'est même bon d'en souffrir. Celui qui n'en souffre pas, il lui manque un tout petit peu le sens de l'Église. C'est normal d'en souffrir. Mais ce n'est pas parce qu'on en souffre que l'Église, qui est à Rome, qui a le pape comme celui qui a l'autorité suprême, est diminuée par ces séparations. Elle n'est pas diminuée dans son lien avec Jésus pour maintenir la foi parfaite. Elle est diminuée dans sa force de témoignage au plan espérance et au plan charité. C'est évident que la séparation de l'Orient par rapport à l'Occident a été terriblement nuisible pour le témoignage de l'Église. Et la séparation avec les calvinistes et les luthériens est aussi quelque chose de très pénible comme pouvoir de témoignage. Ça, c'est sûr. On ne peut pas le nier. Et ça nous fait souffrir. Et Jésus veut l'unité. Et nous devons tout faire pour l'unité. Qu'il soit un comme nous. C'est dans la prière de Jésus. Comment cette unité se réalisera, personne ne le sait. Parce qu'en définitive, c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint. Mais les théologiens doivent tout faire pour cela, en restant fidèles à ce que l'Église demande. La tradition, c'est un mystère. Il y a un livre du Père Congar, Le mystère des traditions et les traditions. C'est très juste. Il y a des quantités de traditions qui relèvent d'un patrimoine. L'Espagne a une liturgie assez différente de celle de l'île de France. L'Italie a un patrimoine liturgique différent de celui du nord de la France. Le patrimoine liturgique de Pologne n'est pas le même que celui que nous vivons en France. Mais c'est très important de distinguer le patrimoine religieux, de culture religieuse, et le mystère de la tradition. Il faut distinguer les deux, il ne faut pas confondre. Les traditions liturgiques françaises ne sont pas objets de foi. Non, pas du tout. Qu'en Bretagne, on prie de telle façon et qu'on a telle dévotion, ça ne fait pas partie de la foi. Vouloir réciter la messe en breton bretonnant, ça ne fait pas partie du mystère de la tradition. Ça fait partie de certaines dévotions. Je ne les critique pas, je les constate. Il faut respecter ça. Il y a des vieilles personnes qui ne peuvent prier qu'en breton bretonnant. Vous n'allez pas leur dire, vous êtes en dehors de l'Église catholique. Pas du tout. Continuez de prier pour l'unité. Il faut bien distinguer un patrimoine culturel, religieux, qui implique l'art, qui implique la liturgie. Patrimoine byzantin, c'est un patrimoine qu'on peut très bien garder. Il n'y a aucune objection à ça, si on l'aime mieux. a demandé qu'on essaie de trouver une liturgie de langue vulgaire. Très bien. Je n'ai rien contre. Puisque l'Église demande. C'est pas moi qui va régler la liturgie. Mais je peux avoir des petites inventions et les soumettre à l'Église. Quand il y a une nouvelle congrégation qui naît dans l'Église, l'Église laisse aux petits groupes qui commencent à réfléchir, à faire des constitutions, c'est pas l'Église qui les fait. Ça vient d'en bas. Et l'Église lit ensuite et dit très bien, trop long, coupé. On obéit. Et c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, on lui dit, on insiste. Et au bout de 3-4 fois, l'Église dit très bien. Si on frappe aux bonnes portes, pour connaître tout ça. C'est très humain, vous savez, tout ça. Et en même temps, c'est très divin. C'est magnifique. La tradition, elle est faite de pièces et de morceaux. Elle est faite de quantités de choses comme ça. Je vous affirme, quand on a vécu, et je l'ai vécu, le point de départ d'une famille religieuse nouvelle, Bethléem, Saint-Jean, je les ai vus naître. J'étais la sage-femme. Je l'ai vu naître. Et je vous affirme que quand on voit ça, on voit combien l'Église est respectueuse. Père, vous êtes fondateur. C'est vous qui devez dire ce que vous désirez et ce que vos fils désirent. C'est pas nous. L'Église n'impose jamais d'en haut. Pour toutes les nouvelles familles religieuses. C'est très beau, ça. Alors, quand il y a des fantaisies trop grandes, l'Église se tait. Ou l'Église fait une remarque, on n'écoute pas. Et l'Église attend qu'on se casse la tête. C'est souvent ce qui arrive. C'est très, très maternel, le gouvernement de l'Église. Et la tradition est maternelle. Les théologiens, c'est assez du côté de l'homme et de l'intelligence. Mais la tradition est très maternelle. C'est Marie qui est le point de départ de la tradition chrétienne. Marie est plus tradition chrétienne que Pierre. J'ai dit ça une fois. Oh, qu'on m'a tapé dessus après. C'était des curés qui étaient là. J'ai pas la tradition, mais non, c'est les apôtres. Non, c'est Marie. C'est une femme. C'est la bonne terre qui garde la parole de Dieu. Marie a gardé toute la vie du Christ. Pierre, 3 ans. Et ça, c'est voulu par la sagesse de Dieu. C'est quand même très étonnant que Jésus ait consacré 30 ans à sa mère. Demandez aux psychanalystes ce que ça signifie. 30 ans à sa mère et 3 ans à Pierre. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Il y a des raisons là-dessus. C'est pas le hasard. C'est parce que la tradition est maternelle. C'est la bonne terre. C'est le cœur des saints qui garde la parole de Dieu. Le père Feuillet me disait, parce que je l'aime beaucoup, c'est un ami, un bon exégète devrait tenir compte de la manière dont une petite Thérèse de l'enfant Jésus vit la parole de Dieu. Parce que les saints comprennent mieux la parole de Dieu que les purs savants. Qu'est-ce qui reçoit la parole de Dieu? C'est la foi. C'est pas mon intelligence en premier lieu. Comprenez bien. La parole de Dieu est pour les croyants. Dieu a choisi Abraham à 75 ans. Il y a 75 ans, on dit aux évêques, arrêtez. Curieux, hein, c'est l'Ancien Testament. Et Dieu a choisi Abraham à 75 ans. Abraham savait ce qu'il faisait. Et Dieu a choisi Abraham à 75 ans. C'est quand même très étonnant, ça. Et c'est pas le hasard. C'est pas parce qu'il y avait un vieil arbre, là. Charmant, merveilleux. Pauvre homme martyr de Sarah. Donc alors, Dieu l'aimait beaucoup, Abraham, d'une façon étonnante. Alors Dieu s'est penché auprès de lui. Non, Dieu a choisi Abraham. Un homme de 75 ans. C'est étonnant, c'est les fantaisies de Dieu. Et Dieu a choisi la petite Marie. Elle n'avait pas 75 ans. La petite Vierge Marie. Et il y a un parallèle entre Abraham et Marie. Un parallèle très beau, merveilleux. Et Dieu a déraciné un vieil arbre de 75 ans, sans bulldozer. Il a déraciné. Va vers la terre promise. À 75 ans, il l'a mis sur la route. Ou avec Sarah, avec son cheptel, avec Lot et son cheptel. C'est une sortie, ça. Un petit peu là. Vous voyez ça? Dieu les met sur la route. C'est ça la foi. Au point de vue de l'intelligence, Abraham aurait pu dire non, non, ah non, ah non, Seigneur, vous exagérez. Vous exagérez. Non, il a accepté. Ça, ça fait partie de notre foi, ça fait partie de la tradition d'Église. La tradition. C'est la parole de Dieu gardée dans le cœur des saints. Je crois que c'est la meilleure façon de comprendre ce que c'est que la tradition. C'est la parole de Dieu gardée dans le cœur des saints. C'est le mystère qui était dans saint Luc. De la parole de Dieu qui est comme une semence et qui est reçue dans la bonne terre. Qui est reçue aussi dans une terre qui est moins bonne et qui porte ses fruits. Et donc, c'est les fruits de la parole de Dieu gardée dans le cœur des saints. C'est la parole de Dieu dans sa fécondité. C'est tout le mystère de la fécondité de la parole de Dieu, la tradition. Dans le cœur des saints. Dans la bonne terre. Alors c'est très très étonnant, c'est de voir que la tradition enveloppe toujours la parole de Dieu. Elle a quelque chose de maternel. Peut-on dire que tous les hommes ont la foi? En même temps, n'est-elle pas un don de Dieu? La foi est donnée comme un don de Dieu, gratuitement. Si j'ai la foi, c'est une pure miséricorde de Dieu. Et cette foi m'a été donnée gratuitement, comme à vous. Mais je suis responsable de la croissance de ma foi. Si j'enfouis ma foi sans l'exercer, ma foi ne grandira pas. Elle sera enfouie. Si au contraire, j'exerce ma foi le plus que je peux, chaque fois que je peux, chaque fois que je communie, chaque fois que je lis la parole de Dieu, chaque fois que j'obéis, chaque fois que je me nourris, les trois nourritures, n'oubliez jamais, les trois nourritures, parole de Dieu, l'Eucharistie, la volonté du Père. Et la foi se nourrit à ces trois râteliers. Elle se nourrit de la parole de Dieu, de l'Eucharistie, de la volonté du Père. Il faut exercer sa foi. Il faut tous les jours faire un acte de foi. Autrement, votre foi va s'anémier. Et vous la perdrez très facilement. Et quand vous faites un acte de foi, votre intelligence est présente à votre foi. La foi est reçue dans l'intelligence, sous la motion de l'amour. C'est pour ça que le concile d'Orange, chaque fois que vous passez à Orange, pensez au concile d'Orange, a précisé que le point de départ de la foi, c'était la pia affectio, c'est-à-dire une inclination aimante de ma volonté sur mon intelligence, pour permettre à mon intelligence de s'ouvrir à la parole de Dieu. Mon intelligence ne s'ouvre pas naturellement à la parole de Dieu. Mon intelligence ne s'ouvre à la parole de Dieu que sous l'action d'un secours de Dieu et d'une grâce. C'est pour ça que je ne dois jamais regarder d'en haut quelqu'un qui dit qu'il n'a pas la foi. Je dois en avoir une très grande peine si je sais la grandeur de ce don. Et je dois tout faire, si c'est un ami, pour que son intelligence progressivement s'ouvre à la foi. Mais je dois le faire avec beaucoup d'intelligence et de discrétion. Il faut dialoguer avec ceux qui disent qu'ils n'ont pas la foi. Il faut en faire des amis. Surtout s'ils sont des savants. Surtout s'ils sont des psychanalystes. J'ai connu des psychanalystes freudiens, ils sont morts maintenant. J'ai compris que la seule manière de pouvoir les aider à sortir d'une idéologie athée, c'était l'amitié. C'est l'amitié, il n'y a que ça. Et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en premier lieu. Et nous, l'amitié. Quand vous créez des craintes, des liens d'amitié avec quelqu'un qui dit qu'il n'a pas la foi, vous l'aidez à avoir la foi. C'est un tremplin merveilleux, l'amitié. Et si vous êtes vous-même un grand savant, ça fera un double tremplin. Si vous pouvez cultiver votre intelligence et montrer que vous n'êtes pas un imbécile, ça sera ce double tremplin. Mais ce n'est pas celui-là le plus puissant. C'est l'amitié. Je crois qu'il faut toujours se rappeler ça. Donc comprenons que la foi reste un don de Dieu. Et ceci a été défini par le Concile de Trente. Ça fait partie de ma foi chrétienne. Je ne peux pas dire que tout homme a la foi. C'est faux. Si je suis catholique, si j'accepte le Concile de Trente, si j'accepte la tradition, c'est faux. Mais je peux dire que toute intelligence humaine est ordonnée à Dieu. Ça, je dois le dire. Toute intelligence humaine est ordonnée à Dieu. La définition de saint Thomas de l'intelligence est peut-être la plus belle définition qui a été donnée. L'intelligence capax dei. L'intelligence humaine est capable de découvrir Dieu. Elle est ordonnée à Dieu. Il faut beaucoup réfléchir là-dessus. Il le donne en théologien. Mais c'est radicalement vrai au point de vue philosophique. je peux le dire dans un jugement de sagesse. L'intelligence est faite pour Dieu. Mon intelligence humaine et l'intelligence de tous les hommes. C'est pour ça que je considère que la grâce est un don merveilleux de Dieu. Et je considère que ceux qui n'ont pas la foi, c'est triste. Surtout des gens très intelligents. Mais c'est vrai pour tous. Donc distinguons bien l'intelligence et la foi. La foi m'ordonne à recevoir l'enseignement direct de Dieu. En tant que croyant, je suis capable de recevoir directement l'enseignement de Dieu dans la Bible, dans l'Évangile, auprès de Jésus. C'est le propre de la foi. La foi me met à l'école de Dieu, à l'école de Jésus, à l'école du pape. C'est le propre de la foi. L'intelligence me permet de chercher Dieu. Dieu, le nom Dieu, est un mot qui relève des traditions religieuses. Ce n'est pas un mot inventé par la philosophie, comme le mot âme. C'est un mot qui relève des traditions religieuses. Et le philosophe montrera que lorsqu'il atteint l'absolu, dans l'ordre de l'être, dans l'ordre du bien, dans l'ordre de la vérité, cet absolu, c'est bien ce que les traditions religieuses appellent Dieu. Je crois que c'est très important dans un monde comme le nôtre de bien maintenir les niveaux d'intelligibilité. Prenez un petit exemple très simple, vous allez tout de suite comprendre. Parce que c'est des exemples très actuels tout ça. Quand vous êtes en avion, il y a l'expérience de celui qui est en avion. Et vous êtes toujours chrétien quand vous êtes en avion. Et vous êtes toujours intelligent quand vous êtes en avion. C'est très curieux quand on est en avion de voir un autre avion à côté qui vole évidemment beaucoup moins vite que vous. Il est plus bas. Il n'est pas à la même hauteur. C'est un petit avion. Dis coucou. Vous, le gros Boeing. Chaque avion a sa hauteur de vol qu'il doit maintenir rigoureusement. Le petit coucou, il a sa hauteur de vol. Ils ne se rencontrent jamais. Ils ont chacun leur hauteur de vol. Ils peuvent se rencontrer. Terrain d'atterrissage. La hauteur de vol, elle est ratiboisée. Complètement. Alors, comprenez, l'intelligence philosophique a telle hauteur de vol. L'intelligence scientifique, mathématique, a telle hauteur de vol. L'intelligence physique a telle autre hauteur de vol. L'intelligence biologique a telle autre hauteur de vol. C'est vrai. Chaque savant le sait. Quel est le terrain d'atterrissage? L'homme. Qui est philosophe, matheux, physicien, astronome, biologiste. message à l'homme. C'est moi qui... J'ai telle hauteur de vol. Et une dernière hauteur de vol qui m'est donnée. La foi. La foi. La foi, je vole à la hauteur de la vérité de Dieu. C'est infini. Pas de limite à la foi. C'est infini. Je ne plane pas du tout à la même hauteur que le philosophe. Je sais très bien quand je fais de la philosophie, et je sais très bien quand je fais de la théologie, et quand je suis le croyant qui essaie de se taire en face du tabernacle. C'est le même homme. Il y a différentes vitesses. Il n'y a que l'imbécile qui ne sait pas se servir de vitesse et qui confond tout. Alors à ce moment-là, ça fait des catastrophes. Catastrophes, vous êtes en quatrième vitesse et vous croyez que c'est un reculon. Ça ne va plus du tout. Si vous êtes habitué au moteur, vous savez très bien, tout de suite, immédiatement. L'homme sait s'il est croyant, ce qu'il dit comme croyant. Je suis lucide. Je sais ce que je dis en tant que philosophe. Je sais ce que je dis en tant que mathématicien. C'est très intéressant de dialoguer avec un matheux. Très intéressant. Parce que les matheux ont toujours été considérés comme des hommes d'une lucidité particulière, dangereux dans leur lucidité. Et ils sont merveilleux dans leur lucidité. Si on est philosophe, il faut avoir des amis qui sont des mathématiciens. Il y a le dialogue avec le physicien, avec l'astronome. Très bien, tout ça. Puis, terrain d'atterrissage, l'homme. Jamais une donnée de foi peut être en contradiction avec une découverte philosophique, mathématique, scientifique. Aucun danger. Mais il peut y avoir des conflits sur le terrain d'atterrissage. Sur le terrain d'atterrissage, il peut y avoir des conflits. C'est-à-dire l'usage des mathématiques, l'usage des conclusions scientifiques, l'usage des conclusions biologiques, l'usage de l'art, de la technique. Là, il peut y avoir des conflits, terrain d'atterrissage. C'est l'homme qui use de ses sciences. Mais la science comme telle, et les mathématiques comme telles, et la foi comme telle, aucun danger d'opposition. Si vous dites qu'il y a des oppositions, c'est parce que vous n'êtes pas assez croyant. Ah, ça oui. Beaucoup de croyants ne sont pas assez croyants. Vous n'êtes pas assez philosophe. Vous n'êtes pas assez savant. Et vous confondez l'usage de la science et la science. C'est un grand physicien qui me disait ça, à Fribourg. Parce que j'ai consulté sur la question de l'évolution. Et faisons attention, ne confondons pas l'usage qui est humain. C'est un acte humain. Si je suis mathématicien, je reste un homme. Et donc, j'use en homme de mes mathématiques. J'use en homme de ma biologie. L'homme est au-dessus des mathématiques, de la philosophie, de la biologie. C'est la grande référence, l'homme. Le biologiste n'a pas créé l'homme. Le philosophe n'a pas créé l'homme. Il n'a pas créé l'âme spirituelle. Il n'y a que la foi qui dépasse l'homme. La foi seule. Parce qu'elle est de Dieu. Parce que que c'est une greffe divine directement sur ce vieux tronc que représente mon âme spirituelle. C'est une greffe magnifique qui fait que, grâce à ma foi, par ce mystère de la grâce, je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Et je peux opérer en fils de Dieu. Et je peux avoir des fruits qui sont méritoires de la béatitude éternelle. Tandis que jamais les mathématiques n'atteindront le mystère de la vision béatifique. J'ai dit ça à un maître d'eux une fois, que j'aime beaucoup du reste. Me dit, est-ce que dans le ciel il y a encore des mathématiques? Je dis, non. Non, non. Est-ce que dans le ciel il y a encore la philosophie? Ah oui, 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 oui. J'ai pris de l'avance sur vous, vous voyez. J'ai misé sur quelque chose qui durera. Et vous, maître d'eux, on se reverra de l'autre côté, hein, et vous verrez que ce que je dis est vrai. La foi durera encore. Ah non, non, non. Ce sera la vision béatifique. Mais j'exerce ma foi pour grandir dans ma foi. Comme le mathématicien, si c'est son métier d'être matheux, il doit exercer les mathématiques. Et si les chrétiens, c'est méritoire pour lui d'exercer les mathématiques. Il ne fait pas des mathématiques chrétiennes. C'était une fois un professeur de polytechnique qui était converti, qui était passé au Solchoir, notre couvent dominicain, et qui, dans une petite conversation, avait dit « Depuis que je suis converti, je fais des mathématiques chrétiennes. » Il m'a dit « Ah tiens, c'est curieux, ces mathématiques chrétiennes. Ça m'intéresse beaucoup, les mathématiques chrétiennes. Qu'est-ce que vous faites comme mathématiques chrétiennes ?»« Ben oui, je les ordonne à la vision béatifique. » »« ah oui, ça c'est autre chose. » Donc, vous respectez mieux les mathématiques parce que vous êtes croyant qu'avant, vous voyez mieux leurs limites. Et vous pouvez exercer votre métier de matheux pour l'amour du Christ. Vous dites, oui, c'est exactement ce que je fais. Je dis, oui, c'est pas des mathématiques chrétiennes, c'est un usage chrétien de vos mathématiques. Et qui ne change rien au caractère spécifique de vos mathématiques. Oui, je fais là quelques petites distinctions qui sont absolument nécessaires pour ne pas tomber dans une confusion totale. Bon, alors, vous voyez bien que la foi a un don de Dieu qui me permet de recevoir directement la parole de Dieu. L'intelligence me permet de chercher la vérité. La foi aussi me cherche la vérité. Je dis, la foi me donne la vérité. Et je la cherche pour grandir dans la foi. Je ne cherche plus la vérité, je l'ai dans la foi. D'une façon tout à fait obscure, dans une totale pauvreté. Mais le croyant, il est lié au Christ. Alors il doit faire grande attention de savoir qu'il ne doit pas user de la foi en propriétaire. C'est Merleau-Ponty qui disait « J'aime pas parler un catholique parce qu'il sait. » Il voit très bien ce que ça veut dire. Le croyant doit user dans la pauvreté et la petitesse évangélique de ce don quand il est en face d'un incroyant. Mais il ne doit pas diminuer pour autant le mystère de la foi. Il sait que c'est Jésus qui est le sauveur et qu'il est le seul sauveur. Il sait que Jésus est notre Dieu et qu'il est le Verbe devenu chair. l'Ancien et du Nouveau Testament. Pourquoi l'Apocalypse ? Et l'Évangile de Jean ? Sont-ils la révélation parfaite ? Suffit de les lire. On ne peut pas dire autre chose. Hein. Alors, comment comprendre les rapports de l'Ancien et du Nouveau Testament ? C'est très très intéressant, ça. Question extrêmement intéressante. L'Ancien Testament commence, pour le croyant, avec Abraham, le père des croyants. On ne sait pas très bien qui est Abraham. Hein. C'est pas révélé. On cherche. On dira des tas de choses. Ça n'a pas d'importance. Je sais qu'Abraham a reçu la parole de Dieu. Voilà ce qu'il m'apporte. Et on me montre comment Abraham, le père des croyants, a reçu une parole mystérieuse à laquelle il a cru. À 75 ans. Je ne sais pas comment il a décidé, Sarah, de partir avec lui. Parce que c'était une douce folie. Mais ce qui est sûr, c'est que Sarah est partie avec lui. Il y a peut-être eu un drame de ménage. Vous voyez Abraham qui annonce qu'il a reçu un message de Dieu. Pauvre Sarah. Dieu aurait dû s'adresser à Sarah. Ça aurait été... Abraham aurait cru plus facilement Sarah qu'Abraham, que Sarah Abraham. Alors, mais non, c'est Abraham qui l'a pris. Et dans le Nouveau Testament, il a pris Marie. Pour qu'il n'y ait pas de jalousie. L'Ancien Testament repose sur Abraham, Isaac, Jacob, les trois. On y reviendra là-dessus, parce que c'est très important. Et le Nouveau Testament repose sur Marie. Donc si je veux savoir les rapports entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, je regarde le point de départ. Il faut toujours être comme petit Jean, vous savez. C'est toujours le commencement qu'on sait le mieux. Quand on passe les examens, on essaie tout le temps, même si c'est une question qui est en plein milieu, une sale question qu'on n'a pas eu le temps de voir. On a eu le début. Le début. Alors on revient. Si on est astucieux, on revient au début. Ça, je connais. Puis on parle pendant 10 minutes. C'est déjà beaucoup. Temps de gagner. Abraham. Marie. Deux choses que je sais. Point de départ de l'Ancien Testament. Et du Nouveau Testament. Toute la différence qu'il y a entre Abraham et Marie me fait comprendre la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Alors là, c'est lisez dans la Bible le point de départ Abraham. Lisez dans la Bible le point de départ avec Marie. L'Annonciation. Et le point de départ de la nouvelle alliance. Et Abraham est le point de l'Ancien Testament, le point de départ de la première alliance. Alors qu'est-ce que dit Dieu à Abraham ? Quitte ta terre, égrédéré, déconditionnez-toi. La Vulgate dit ça avec beaucoup de précision. Quitte tout ce qui t'est naturel, ta maison, ton pays, et va vers une terre promise à 75 ans. Dieu le traite comme un petit novice. C'est extraordinaire, ça. C'est bouleversant, du reste. Quitte tout ce qui t'est comme naturel, ta culture, la culture d'Ur de Mésopotamie. Allez voir au Louvre ce qu'est la culture du temps d'Abraham. C'est quelque chose, c'est pas rien du tout. C'est une grande culture, très grande culture. Abraham n'était pas du tout un paysan. C'est quelqu'un de très intelligent, j'en suis sûr. On ne vous dit rien sur son intelligence. On montre simplement qu'il est très astucieux. Et que l'astuce joue un rôle important dans sa vie. Vous voyez bien, quand il va entrer en pays d'Égypte, bien qu'il soit croyant, et dis à Sarah, tu diras que tu es ma sœur. Il est croyant. Il perd des croyants. Et de qui on tient? Et dis ça à Sarah. C'est quand même prodigieux. C'est pour bien faire comprendre toute la différence qu'il y a entre des coutumes morales et la foi. Il y a un abîme. La foi vient d'en haut. Les cultures morales viennent de l'homme. L'éthique, ça vient de l'homme. C'est l'homme qui essaie de comprendre ce qu'il est et comment il doit respecter son voisin. Et comment il doit respecter Sarah. C'est difficile de respecter Sarah quand Sarah peut devenir quelqu'un qui va vous jouer de très drôle de tour. Elle vaut mieux qu'elle disparaisse pendant un certain temps. On la retrouvera après, c'est bien évident. Alors, la foi dans l'Ancien Testament, c'est une foi en la parole de Dieu et en la promesse. Je crois que c'est ça qui est le point de vue essentiel. La terre qui est promise. Canaan. Une fois la promesse. Marie. Elle doit croire qu'elle sera la mère de Dieu. Et que ça se réalisera en elle. Entre la foi chrétienne et la foi ici liée à la promesse. Donc foi et espérance sont extrêmement liés. Il croit en une promesse. Il y a une terre qui t'est préparée. Il va vers ça. Alors qu'est-ce qu'Abraham a compris? Il a compris qu'il y avait une alliance. C'est une alliance avec Dieu. Direct. Sans passer par l'intermédiaire des créatures. C'est ça qui est extraordinaire. Tandis que lorsqu'il s'agit d'une recherche philosophique, on passe toujours par l'intermédiaire des créatures. L'Ancien Testament, c'est une préparation. C'est une attente. Tout l'Ancien Testament est tendu vers la réalisation de la promesse. Et la réalisation de la promesse, c'est le Messie. Le Sauveur. C'est Dieu Sauveur. C'est l'Emmanuel. Dieu avec nous. C'est donc le mystère de la présence de Dieu. L'Ancien Testament, c'est le mystère de l'attente, donc de la non-présence. C'est le mystère du désert. C'est l'Ancien Testament. Le désert joue un rôle énorme dans l'Ancien Testament. Il y a bien une alliance. C'est pour ça que je dis que l'Ancien Testament implique un devenir. Je pars de l'imparfait vers le parfait. C'est ça qui commande toute cette théologie biblique de l'Ancien Testament. Cette grande attente qui est merveilleuse. Dieu suscite des prophètes. Dieu conduit son peuple. Et Dieu répond à ce peuple quand il demande des choses, même auxquelles les prophètes ne sont pas tout à fait d'accord. On verra ça. La royauté. intéressant, l'histoire du peuple d'Israël. Ce qu'on appelait l'histoire sainte, dans le temps jadiste, l'histoire sainte. Et c'est vrai, c'est une histoire sainte, mais c'est une histoire. Dieu gouverne des hommes qui sont libres. Et dans un temps, ils disent ah non, à Dieu non. Ils refusent. C'est là où on découvre comment Dieu conduit son peuple en respectant sa liberté. Parce que la foi et l'espérance respectent la liberté. Et donc, il y a la volonté de Dieu, et puis, il y a la volonté humaine. Et tout ça se fait au milieu de la lutte. Dans des luttes constantes. Puisqu'il y a des hommes qui refusent. Et plus les hommes ont d'autorité, plus les luttes sont fortes. C'est extraordinairement curieux. Mais c'est très intéressant que Dieu reprend l'humanité pécheresse, parce qu'il s'agit d'une humanité pécheresse. Avant Abraham, il y a les 10 premiers chapitres. Les 11 premiers chapitres de la Genèse. Préhistorique. Selon un style symbolique, mythique. Toute l'histoire de l'humanité avant Abraham. Pour nous rappeler que l'homme est pécheur. Le péché. Et Dieu promet un sauveur. C'est donc une grande espérance dans l'Ancien Testament. À travers des quantités de fautes. Pour montrer que l'homme est pécheur. Et que l'homme ne cesse de pécher. Et que l'homme a la tête dure. Qu'il a beaucoup de peine de comprendre. Et malgré tout ça, l'homme reste à l'image de Dieu. Malgré tout ça, Dieu continue de l'aimer. Malgré toutes les crasses que l'homme joue, toutes les infidélités, Dieu est patient. C'est la patience de Dieu qui nous a montré. C'est la miséricorde de Dieu qui nous a montré. C'est Dieu qui tend la main tout le temps, tout le temps. C'est merveilleux pour découvrir tous les grands attributs de Dieu. C'est une histoire qui nous montre comment l'homme, à l'image de Dieu, nous révèle progressivement, lentement, tout le mystère de Dieu. La perfection, c'est quand la promesse se trouve réalisée. C'est la présence du Christ, du Messie, du Verbe qui s'est fait chair. C'est pour ça que c'est la perfection. Une seule grande promesse, je vous enverrai le paraclet. Avec Jésus, on a la plénitude. Dans l'ancienne alliance, nous n'avons pas la plénitude. Nous sommes dans l'ordre de la perfection. Alors, la plénitude, c'est le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, la plénitude de la plénitude, c'est les écrits johanniques, selon toute la grande tradition. Saint Paul, Saint Jean. C'est ça qui nous révèle le mieux le mystère de l'Esprit Saint. Et il semble bien que c'est l'évangile de Jean qui est dernier. Jean a écrit son évangile après la grande secousse de l'Apocalypse à Patmos. On pourra revenir sur ces trois écrits johanniques, du reste, parce que c'est très grand. L'Apocalypse, la première épître, l'évangile. sais qu'on pourra discuter sans s'étendre. Depuis que j'ai fait de l'exégèse, tout a changé, mais complètement. Heureusement que j'écoutais mes professeurs d'exégèse en disant « Oui, c'était très intéressant, mais ce n'est pas la foi. » Si j'avais mis ma foi dans les conclusions exégétiques au moment où m'enseignait saint Jean, je ne sais pas où je serais. J'aurais relativisé ma foi. Parce que l'exégèse change avec le progrès des connaissances humaines. La foi ne change pas. Parce qu'elle me permet d'adhérer directement à Dieu. La foi devient de plus en plus contemplative. La foi me fait me rapprocher de plus en plus de Dieu. Donc il y a un progrès dans ma foi. Mais objectivement, ma foi ne change pas. Le mystère de la très sainte Trinité n'a pas changé depuis que Jésus nous l'a révélé. Le mystère de l'Église n'a pas changé non plus. On précise toujours, mais en profondeur. Vous voyez, il y a un progrès d'extension, c'est l'Ancien Testament. Il y a un progrès d'intensité, c'est le Nouveau Testament. Un progrès quantitatif, un progrès qualitatif. Et l'Église vit pleinement et totalement de la révélation. Il y a une précision avec l'enseignement de l'Église, mais il n'y a pas de nouvelle révélation.